Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Permettez-moi de relire pour vous le texte de notre message ce matin, car c'était le texte de notre message dimanche dernier, dans Matthieu 7, versets 15 à 20. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. L'idée maîtresse du texte se trouve dans la première ligne. Gardez-vous des faux prophètes. Au cours de notre vie, nous avons tous vécu récemment une tragédie incroyable. Cette tragédie est à présent connue simplement pour l'histoire, sous le nom de John Stone. Et si quelqu'un n'a jamais eu besoin d'une illustration d'un faux prophète, Jim Jones nous fournit certainement cette illustration, car nous pouvons voir en lui le caractère, l'enseignement, le style de vie, la vision d'un faux prophète, dans un livre publié l'année dernière intitulé « Deceived, trompé ». L'écrivain parle des phénomènes de John Stone. Il faudra des années pour percer le mystère de John Stone. Il n'y a pas de statistiques recueillies pour les personnes qui ont subi un lavage de cerveau et qui ont été trompées par le révérend Jim Jones. Nous ne disposons d'aucun registre donnant les noms, adresses et profils de la personnalité de ceux qui sont venus à l'église chrétienne du Temple du Peuple et y sont restés pour mourir. Le puzzle doit être assemblé pièce par pièce à partir de la poignée de transfuges survivants et de parents des morts. J'ai demandé à chacun de mes sujets de décrire ses antécédents religieux dans l'espoir de prouver que les convertis à la fausse version de Jones de la foi chrétienne n'auraient peut-être pas été trompés s'ils avaient été exposés à une version de la vraie foi chrétienne lorsqu'ils étaient enfants. J'ai cependant découvert qu'ils étaient exposés à la vérité chrétienne lorsqu'ils étaient enfants. En fait, dans une longue interview avec Tim Stoen, j'ai eu une première réponse à ma question. Tim était autrefois le deuxième homme le plus puissant du Temple du Peuple. Tim est diplômé en droit de l'Université de Stanford et était procureur adjoint du district de San Francisco jusqu'à sa démission pour aller à Johnstone en 1977. Tim a quitté la secte l'année dernière et a travaillé sans relâche jusqu'à ce terrible samedi de novembre pour obtenir que son fils John Victor, 6 ans, soit loin de Jones et de la jungle. Selon des témoignages oculaires, le petit John a été retrouvé mort à côté du corps de Jones. « J'ai été élevé dans un foyer chrétien », m'a-t-il dit. « Mes parents étaient des fondamentalistes, membres de l'Association Générale des Baptistes. J'ai été à l'école du dimanche et à l'université toute ma jeune vie. J'ai fréquenté le Wheaton College, un important collège chrétien évangélique de l'Illinois, et j'ai été impliqué dans le leadership étudiant. Quand j'ai déménagé en Californie, j'ai rejoint et fréquenté régulièrement la First Presbyterian Church à Berkeley. Pendant 2 ans, j'ai été président de leur groupe Corinthians, un rassemblement de jeunes adultes, hommes d'affaires et professionnels. J'ai admiré et respecté leur personnel pastoral évangélique, mais socialement concerné. J'assistais à First Presbyterian et The People's Temple jusqu'à ce que je rejoigne le groupe de Jim Jones. Jane Mills, une autre victime, a été pendant 7 ans membre du Temple, l'un des écrivains de Jones et membre de sa commission de planification. Il a déclaré « J'ai assisté ou enseigné dans le programme d'éducation chrétienne de mon église depuis mon enfance. Quand j'avais 18 ans, j'étais le chef du Pat Fingers Club, qui comptait plus de 50 enfants. J'avais 22 adultes travaillant sous moi. Je pourrais vous citer un passage de la Bible pour répondre à n'importe quelle question. Je connaissais la Bible sur le bout des doigts. À un moment de ma vie, le pasteur a essayé de m'envoyer à l'université pour devenir son ouvrier biblique, et j'étais très dévoué à l'église. Wayne Patilla, qui était le garde du corps et chauffeur privé de Jones, a grandi à l'école du dimanche des Nazaréens. Sa femme, et membre de longue date du culte, a grandi dans une église charismatique et a fréquenté l'école du dimanche et l'église régulièrement. Bonnie Thielman, pendant 6 ans, membre du temple, était la fille de missionnaire de l'Assemblée de Dieu au Brésil et a fréquenté le Bethany College, une école luthérienne du Minnesota. Caroline Moore était présidente de son groupe de fraternité pour les jeunes méthodistes, et elle et sa sœur, Annie, étaient les enfants d'un pasteur méthodiste. Les deux sœurs ont été des assistantes intimes de Jones, et elles sont mortes en Guyane. C'est un échantillon des 3 premières pages du livre. Ces gens étaient des gens élevés dans un environnement chrétien, et pourtant la subtilité de cet homme les a quand même trompés. Telle est la tromperie des faux prophètes, et telle est la raison pour laquelle notre Seigneur nous dit « Gardez-vous, ce ne sont pas des gens facilement repérables. » L'auteur du livre, D.C. Ivde, en essayant de nous donner un aperçu des raisons pour lesquelles les gens ont suivi Jim Jones, en a tiré les raisons suivantes. Il savait inspirer l'espoir. Il était engagé envers des personnes dans le besoin. Il a conseillé des prisonniers et des délinquants juvéniles. Il a ouvert un centre de placement. Il a ouvert des maisons de repos et des maisons pour handicapés. Il avait une clinique de santé. Il a organisé un centre de formation professionnelle. Il a fourni une aide juridique gratuite. Il a fondé un centre communautaire. Il a prêché à propos de Dieu. Il a même prétendu chasser les démons, faire des miracles et guérir. Mais d'un autre côté, nous trouvons en lui toutes les marques d'un faux prophète. Il s'est fait connaître en utilisant des célébrités, un moyen très courant pour les faux prophètes de gagner en crédibilité. Il manipulait la presse pour diffuser certaines histoires favorables. Il était doué pour jouer avec la presse. Il se faisait passer pour un chrétien. Il a officié dans une église des disciples du Christ, après avoir été ordonné par eux, en 1964. Il a utilisé le langage et les formes de la foi pour gagner sa puissance. Il a utilisé des pièges pentecôtistes fondamentalistes et a toujours parlé avec un langage biblique. Il a fait chanter son peuple et lui a témoigné comment il les avait miraculeusement guéris. Et je pourrais ajouter qu'ils ont découvert plus tard qu'il était censé toujours guérir des cancers, qu'il faisait cracher aux gens leur cancer, et qu'il les montrait devant les gens, et ils ont découvert que c'était des parties sanglantes de poulet, qu'ils utilisaient avec des gens plantés dans la congrégation. Il a créé une communauté pseudo-chrétienne, chaleureuse, aimante, et sans le Christ. Il a exigé une fidélité absolue et totale. Il a remplacé Jésus comme figure d'autorité, est allé jusqu'à dire qu'il était Jésus. Il a utilisé la Bible, la citant très souvent, mais la pervertissant à ses propres fins. Il a donné des cadeaux oints, des bénédictions miraculeuses, des chiffons de prière, et a toujours demandé de l'argent en retour. C'est un autre stratagème, utilisé par de nombreux faux prophètes. Il était là pour l'argent. Il était complètement, totalement absorbé par une préoccupation pour le sexe. Et pas seulement le sexe d'une manière pécheresse, mais le sexe d'une manière déviante. Il a menti constamment et continuellement sur tout. Tel est Jim Jones. Et pourtant, dans tout cela, il était tellement trompeur qu'il a trompé tout le monde. De Madame Jimmy Carter jusqu'à 1000 personnes qui se sont retrouvées cadavres dans une jungle en Guyane. Et il a trompé toutes sortes de gens entre les deux, les sénateurs, les membres du Congrès, les membres des assemblées d'État, les gouverneurs et tous ceux qui lui ont donné des plaques, des honneurs et des récompenses en tant que chef civique et religieux. S'il n'était pas mort et que Johnstone ne s'était pas produit, il est probable qu'il aurait été salué comme un grand héros. Mais cela a fini horriblement, et il nous donne l'image d'un faux prophète que nous pouvons voir et connaître, à cause de la façon dont cela s'est terminé. Malheureusement, tous les faux prophètes ne deviennent pas aussi manifestes, et donc, comme le dit Hébreux 5,14, ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Parce que ce n'est pas toujours évident, comme cela l'est devenu dans le cas de Jim Jones. Lui, dans son approche, s'occupait des pauvres. Il y a beaucoup de faux prophètes qui s'adressent plutôt aux riches, et plein d'autres entre les deux. Maintenant, permettez-moi d'ajouter cette note de bas de page dans les commentaires sur Jim Jones. La tragédie de Johnston n'est pas que près d'un millier de personnes soient mortes. Ce n'est pas cela la tragédie. Tout le monde meurt de toute façon. La tragédie n'est pas qu'il soit mort. La tragédie, c'est qu'il soit mort et soit allé en enfer, pensant qu'il servait Dieu et était en route vers le ciel. C'est ça la tragédie. La tragédie n'est pas leur mort prématurée. La tragédie, c'est l'éternité infinie de l'enfer dans lequel ils sont. La tragédie de Jim Jones, c'est qu'il a dupé les gens en leur faisant croire qu'il représentait Dieu et le Christ. C'est que ces gens qui croyaient qu'ils servaient le royaume de Dieu, en fait se réveillaient en enfer. Voilà la tromperie. Satan est un menteur et un trompeur, tout comme ses émissaires, et il se transforme en ceux qui se font passer pour des anges de lumière. Jim Jones n'est pas le seul, et il ne sera pas le dernier. Jésus a dit, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Et Jude a écrit que, « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Nous en avons toujours eu, nous en aurons toujours. Il n'est qu'un exemple. Et au fait, ils ne seront pas tous exactement comme lui, de par leur modus operandi non plus. Il était pour les brouffes et les apparences, attirant plutôt des pauvres. Certains sont pour les forts riches. C'était un type d'autoritarisme flagrant, assez prétentieux. Certains sont beaucoup plus subtils que cela. Son approche était d'apparence vile et sale. Certains sont très nets et semblent presque vertueux. Ils se présentent sous toutes sortes d'aspects, mais leur cœur est toujours le même. C'est le cœur d'un démon. Or, selon le Nouveau Testament, comme je vous l'ai dit la dernière fois, il se divise en trois catégories de faux prophètes. Premièrement, les hérétiques. Ce sont ceux qui défient ouvertement la vérité, et dont Paul dit dans Tite 3, « Éloigne de toi celui qui provoque des divisions. » Ce sont ceux qui s'opposent ouvertement à la vérité. Par exemple, vous avez une personne comme le révérend Ike. Il dit, « La Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tout mal. Mais je dis, et il disait tout le temps, être sans argent est la racine de tout mal. » Il s'oppose clairement à la Bible. C'est un hérétique, flagrant ouvert, qui ne trompe personne. Ensuite, il y a une deuxième catégorie, l'apostat. Un apostat est celui qui connaît la vérité, qui a été élevé dans la vérité, qui était autour de la vérité, mais qui, dans la plénitude de sa compréhension, choisit de lui tourner le dos et de la rejeter. Lui aussi est un faux prophète flagrant. Lui aussi est ouvertement contre la vérité. Mais le troisième, la dernière catégorie de faux prophètes, est appelé le séducteur. C'est celui qui ne se prononce jamais contre Dieu, qui n'acceptera pas le fait qu'il est un hérétique, qui ne reconnaîtra pas l'apostasie, mais qui trompe son monde, celui qui le loue en vêtements de berger, celui qui vient l'improviste, comme le dit Jude. Subtil, peut-être, comme Jones, à la fin, une fois découvert, peut-être pas. Ils se tiennent au carrefour de la vie, ils participent aux décisions. Ils se tiennent là où l'humanité est prête à faire le choix, entre la porte étroite, le chemin étroit qui mène à la vie, et la large porte, le large chemin qui mène à la destruction. Alors que l'Esprit de Dieu courtise les hommes vers la porte étroite, les faux prophètes les poussent sur le large chemin qui mène à l'enfer. Ils sont à tous les niveaux de sophistication. Ils ont reçu toutes sortes d'éducations, portent toutes sortes de tenues et de vêtements, avec toutes sortes de pièges à rats ecclésiastiques, mais ils sont tous les mêmes. Et notre Seigneur, en se référant à ceci, avait certainement l'esprit des pharisiens et des scribes. Dans Matthieu 23, si vous avez un doute au moment où nous en arriverons à ce chapitre, vous saurez que c'est d'eux qu'il parle, mais il les voit comme de faux prophètes. Ils sont là avec toute leur supposée religiosité. Ils sont là, s'assurant qu'ils respectent chaque aspect infime de la loi. Ce sont les religieux des religieux. Ils sont au-delà de l'imagination pour maintenir les scrupules de leur religion. S'il doit y avoir un royaume de Dieu, ils considèrent qu'ils seront au plus haut niveau de ce royaume. Ils sont super religieux. Et pourtant, il leur est dit, « Vous êtes de faux prophètes. » Vance Havner a fait une déclaration intéressante cette semaine. Il a dit, « Vous pouvez mettre tous vos points sur vos i et toutes vos barres sur vos t, et quand même mal épeler votre mot. » Et c'est exactement ce qu'ils ont fait, si je peux l'illustrer comme ça. Vous pouvez avoir toutes les clés et tous les titres, et toujours pas épeler Jésus correctement. et c'est exactement ce que faisaient les pharisiens et les scribes. Ils étaient très religieux, et ils condamnaient les hommes à la perdition. Alors ce que dit Jésus ici, c'est que dans votre effort pour entrer par la porte étroite, versets 13 et 14, dans votre effort pour prendre le bon chemin, le chemin de la vie, méfiez-vous des émissaires de Satan, qui vous induiront en erreur et vous tromperont. Et ils ne vous diront pas « Salut tout le monde, allons en enfer ensemble ». Ils ne disent pas ce genre de choses. Ils vous diront que c'est le chemin du paradis. Maintenant, il y a deux mots pour comprendre ce passage sur lequel nous devons nous concentrer. Le premier, celui que nous avons étudié la semaine dernière, et l'autre que nous allons voir cette semaine. Le premier est l'avertissement. Des hommes et des femmes du monde entier se trouvent au carrefour où il faut prendre une décision. Les faux prophètes vendent leur perspective particulière. Et nous devons prêcher la vérité. Nous devons appeler les gens à se méfier des faux prophètes. C'est l'avertissement. Méfiez-vous d'eux. Et je vous ai donné quatre mots pour les repérer. Le premier était une définition. Ce sont de faux prophètes. Prophétesses, en grec, qui s'avancent ou prennent la parole. Et ceux qui parlaient auparavant dans l'Ancien Testament, les vrais prophètes, avaient deux choses sur lesquelles leur fonction était bâtie. Une commission divine et un message divin. Ils ont parlé pour Dieu, ils ont parlé de la part de Dieu. Un faux prophète n'a ni commission divine, ni message divin. Il ne parle ni pour Dieu, ni de la part de Dieu. Il se tient là de sa propre autorité, diffusant son propre message, qui est totalement faux. Ce sont des pseudo-prophétesses, pseudo-christos, pseudo-dadelphos. Ils sont faux, faux, faux. Voilà ce qui les définit. Et parce qu'ils sont faux, nous devons, deuxièmement, nous en méfier. C'est là le danger. Nous avons vu leur définition, et nous avons vu le danger qu'ils représentent. Gardez-vous. Et nous avons vu que le terme « gardez-vous » signifie que vous devez vous retenir de vous exposer à eux. Il y avait un type qui fréquentait la première église presbytérienne de Berkeley, et le temple du peuple en même temps. Il avait été élevé à l'origine dans une église baptiste traditionnelle, une communauté fondamentaliste, croyant la Bible et honorant le Christ. Mais il a exposé son esprit à cette église, au lieu de le sauvegarder, et il est devenu totalement victime de la situation. Gardez votre esprit de cela. Ne leur exposez pas votre réflexion. Je vous ai dit la dernière fois que Jude a écrit « Si vous voulez attraper ces gens, vous feriez mieux de les sauver avec méfiance, parce que quand vous vous approchez de ce genre de personnes, vous vous approchez d'un faux prophète. Or, la subtilité de ce faux prophète peut même aller jusqu'à vous imiter. » Permettez-moi de vous en donner une illustration. 2 Jean, chapitre 7. 2 Jean, chapitre 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Maintenant, écoutez bien. Arrêtez-vous simplement à ce point. Il y a beaucoup de séducteurs entrés dans le monde. Ils sont partout. Et ils ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Et par cela, il veut dire que la divinité de Christ et l'œuvre de Christ sont à la fois sa personne et son œuvre. En d'autres termes, ils n'ont pas une vision biblique de qui il est et de ce qu'il fait. D'accord? Qu'est-ce que nous allons faire de lui? Eh bien, tout d'abord, reconnaissez qu'il est le séducteur et l'antéchrist, un trompeur et un antéchrist. Prenez garde à vous-même. Faites le bilan, un auto-examen, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Écoutez, vous pourriez être entraîné là-dedans, dans cette tromperie, et perdre la récompense que vous avez déjà gagnée par votre service à Christ. Vous ne perdrez pas votre salut si vous êtes chrétien, mais vous risquez de perdre votre quoi? Votre récompense. Par conséquent, le verset 10 dit « Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine du Christ, verset 10, s'il vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas que votre esprit y soit exposé, et ne lui dites pas salut. Salut peut se traduire par « bon voyage », les amis. Cela peut signifier « passer un bon séjour » ou un truc du genre. « Bonne chance, bonne chasse, peu importe. Rien de tout cela. Ne lui dites pas un mot, car si vous le faites, si vous lui souhaitez bon voyage, vous participez à ses mauvaises œuvres. Le postulat de Jean ici, c'est de dire que ce gars est si vil, si misérable, si antéchrist et si trompeur, que vous ne devez même pas ouvrir votre porte ou le laisser entrer. Vous pouvez gérer un hérétique, et vous pouvez même vous occuper d'un apostat. C'est au trompeur que vous ne pouvez pas faire face, sans vous faire tacher ou souiller par la saleté de son propre déguisement. Ok, alors quelle est votre protection contre ça ? 2 Timothée chapitre 3 est, je pense, une bonne illustration dans ce sens. 2 Timothée 3 nous présente, au verset 8, Jannès et Jambres, les deux faux prophètes du temps de Moïse, et tout comme Jannès et Jambres, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Que faisons-nous alors de ces hommes méchants ? Eh bien, nous nous devons de les reconnaître. Nous devons reconnaître qu'ils seront jugés, verset 9. Nous rendre compte qu'ils ne croient pas à ce que nous croyons. Paul dit, « Mais toi, Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. » En d'autres termes, assurez-vous de faire la différence. Vous savez à quel point nous sommes différents. Mais au verset 13, on sait que cela ne va pas être facile, parce que les hommes méchants et imposteurs, ce sont eux les faux prophètes, avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Vous voyez, beaucoup d'entre eux se sont même trompés. Quelqu'un m'a demandé la semaine dernière, « Pensez-vous que les faux prophètes savent qu'ils sont de faux prophètes ?» Certains le savent, d'autres non, car les trompeurs sont souvent aussi trompés, et ainsi ils continuent d'évoluer dans leur illusion satanique, et ils en attirent d'autres à leur suite. Mais comment vous en protégez-vous ? Premier point, en maintenant votre esprit loin d'eux, ne leur soyez pas exposés. Mais vous ne pouvez pas exister sans penser, n'est-ce pas ? Vous devez remplir votre esprit, mais avec quoi ? Verset 14. Demeure dans les choses que tu as apprises, et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Souvenez-vous de ce que vous avez appris, et des personnes bonnes et pieuses desquelles vous l'avez appris. Dès ton enfance, tu connais les saintes Écritures, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Et toute Écriture est inspirée de Dieu, et ainsi de suite. En d'autres termes, consacrez-vous à ce qui vous a été enseigné par des gens bons et pieux. Consacrez-vous à l'Écriture, afin que l'homme de Dieu soit rempli et propre à toute bonne œuvre. Gardez-vous. Retenez votre esprit loin d'eux. Remplissez votre esprit de la parole de Dieu. Et ayez ce que dit Ésaïe 26:3. Une paix parfaite de l'esprit. Ce que Pierre dit, c'est, comme des enfants obéissants, concentrez votre attention sur les choses de Dieu, parce que si vous vous exposez aux trompeurs, ils viennent à vous en habit de brebis. C'est de la laine. Le vêtement de mouton est un vêtement de laine, et un vêtement de laine est ce qu'un berger portait. Le trompeur ne vient pas déguisé en mouton, mais en berger. Il se présente en tant que berger, et pourtant c'est un loup qui va arracher, déchiré et déchiqueté, de manière féroce, malveillante et dévorante des vraies brebis. Gardez-vous. On a donc vu la définition et le danger des faux prophètes. Troisièmement, il y a la tromperie. Ils viennent habillés en mouton. Vous pensez peut-être que vous pouvez les repérer, mais vous devrez les chercher très attentivement. Ils ne se manifestent pas extérieurement. Cela me déplaît, bien aimé, que des millions de chrétiens soient attirés par de faux prophètes. Ne le sachent pas. Ils ne le savent pas, et de nombreux leaders chrétiens leur serrent la main, en faisant cause commune, alors que ce sont de faux prophètes, qu'ils sont trompeurs. Le dernier terme est damnation. Leur fin, nous l'avons vu la dernière fois, comme le dit Jude au verset 13, et « l'obscurité des ténèbres leur est réservée pour l'éternité », et à côté du peuple qu'ils trompent, au verset 23 de Matthieu 7, le Seigneur dira « Je ne vous ai jamais connu ». Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Nous avons donc étudié l'avertissement la dernière fois. Le deuxième mot pour ce matin est observer. Observer. Et je vais évoquer ça rapidement. Je veux que vous m'écoutiez, car je pense que c'est un message tout à fait essentiel pour nous en ces temps de compromis. Un temps où tant de gens défilent en tant que dirigeants chrétiens, et où tant de vrais chrétiens s'associent avec de faux chrétiens et de faux prophètes. Je pense qu'il est essentiel que nous comprenions cela. Très bien. Étudions le deuxième mot. Le mot « observer ». Maintenant que nous sommes avertis, que recherchons-nous ? Comment reconnaître un quand j'en vois un ? Si je dois m'en méfier car ils vont me déchirer, qu'est-ce que je cherche ? Quelles sont les marques d'un faux prophète ? Béni soit Dieu. Il ne nous donne pas d'instructions sans les outils pour l'appliquer. Il ne dit pas « faites attention aux faux prophètes » et bonne chance pour découvrir qui ils sont. Je veux dire que s'ils sont aussi sérieux que dangereux, alors Dieu va forcément nous aider à comprendre qui ils sont. Et donc, au verset 1, nous lisons ceci. « Vous les reconnaîtrez, vous les reconnaîtrez. Ce n'est pas un ordre, c'est une assurance, c'est avoir confiance. Et comment allons-nous savoir? Par leur quoi? Par leurs fruits. » Verset 20. « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Telle racine, tel fruit, dit le vieux proverbe. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre, dit-on en français. Les Juifs, les Grecs, les Romains et tous les autres voient les arbres et les fruits de la même manière. Un arbre est jugé par son fruit. Si vous voulez savoir à quoi ressemble le prophète, regardez ce qu'il produit. C'est assez simple. Regardez ce qu'il produit. Vous devez être prudent, légèrement prudent. Vous pourriez regarder un faux prophète et dire « Mais je connais un tel et un tel, et ils y vont, ce sont des chrétiens. Je sais que ce sont des chrétiens. Eh bien, c'est possible. Vous savez quoi? Les chrétiens se font embarquer par de faux prophètes. Les chrétiens fraient avec de faux prophètes. Vous savez les reconnaître. Ils sont au verset 16. Ce sont des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons. Savez-vous que les raisins ne poussent pas sur les épines, et que les figues ne poussent pas sur des chardons? Vous pouvez faire comme si, mais si vous regardez de plus près, vous verrez que l'épine n'a pas produit ce raisin, et que le chardon n'a pas produit cette figue. Or, il y a des gens qui s'attacheront à eux, sans le vouloir. Ils resteront coincés avec un faux enseignant qui semble être chrétien. Mais si vous regardez de plus près, le texte nous donne un principe simple, au verset 17 et 18. Les bons arbres donnent de bons fruits, les mauvais arbres donnent de mauvais fruits. Pas si dur, non? Vous avez un mauvais arbre, vous obtiendrez le mauvais fruit. C'est forcé, vous avez de la mauvaise sève. Votre arbre produit de mauvaises choses. On ne parle pas d'un arbre pourri, puant, l'air misérable, portant une grappe de fruits minables et ratatinés. Non, les deux arbres se ressemblent. C'est juste que lorsque vous mordez dans le fruit, l'un est bon et l'autre mauvais. Vous avez déjà vécu cette expérience. Vous prenez un morceau de « Waouh, ça a l'air bon, miam !» Vous prenez une bouchée du fruit et ce n'est pas bon. Vous avez été trompé. C'est pourquoi la Bible dit « L'homme regarde à l'apparence extérieure, Dieu regarde au cœur. » Alors parfois, quand vous vous approchez, vous pouvez voir un faux prophète, même si vous pouvez voir un vrai raisin et une vraie figue, de vrais fruits. Mais ces fruits sont collés sur une épine ou un chardon, parce que quand vous regardez les choses qu'il produit, ce sont de mauvaises choses. Peu importe à quoi ça ressemble de l'extérieur. Maintenant, comment allez-vous décider? Que cherchez-vous quand vous regardez le fruit? Il est facile de regarder une orange ou une pomme, ou une banane, ou quelque chose comme ça. Mais si vous regardez la vie de quelqu'un, que cherchez-vous? Eh bien, laissez-moi vous donner encore quatre critères qui vous aideront pour ce deuxième terme. Observez. Premièrement, le fruit et le caractère. Le fruit représente le caractère. Quel genre de personne? Quel genre de personnalité? Quelle est son attitude, sa motivation, sa pensée, sa perspective sur la vie? Quel genre d'action? Quel genre de style de vie? Quel genre de profil présente cette personne? Tout ce que ce caractère implique, depuis la pensée jusqu'aux actions, c'est le premier critère dont témoigne le fruit. Vous voyez, c'est la Bible qui nous le dit. Lorsque vous regardez dans la Bible et que vous voulez en savoir plus sur les fruits produits, vous constaterez que les fruits sont plusieurs choses. Tout d'abord, pour clarifier notre discussion, le fruit est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Par exemple, Luc 3, verset 8 nous dit ceci. C'est Jean-Baptiste qui le dit. « Produisez donc des fruits dignes de la repentance. » Il dit aux scribes et aux pharisiens, « Très bien, vous dites que vous vous êtes repentis, vous dites que vous vous êtes engagés envers Dieu, voyons le fruit que vous avez produit. De quel fruit parle-t-on ici? Qu'attend-il d'eux ?» Verset 10, la foule l'interrogeait disant, « Que devons-nous donc faire? Je veux dire, quel genre de fruit recherchez-vous, Jean-Baptiste? Qu'est-ce que tu cherches ?» Verset 11, il leur répondit, « Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. » Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et lui dirent, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » En d'autres termes, ce qu'il dit ici, c'est que le fruit de la repentance est de donner quelque chose à quelqu'un dans le besoin, de ne pas prendre plus que ce que vous méritez, c'est agir. Le fruit, c'est votre façon de vivre. Le fruit, c'est un mode de vie. Le fruit, c'est agir. Ce n'est pas. Certaines personnes ont pensé que ce fruit ici ne se trouvait qu'au niveau de la doctrine. C'est faux. C'est faux. Cela se trouve aussi dans leur action. C'est clairement cela. Un fruit, au travers de l'Écriture. Prenons l'exemple de Jean 15:8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Et de quelle façon? Si vous gardez mes commandements. Le fruit est donc obéissance. C'est une action en réponse à Dieu. Le fruit n'est pas seulement l'action que vous faites. C'est l'attitude que vous avez derrière, pas vrai? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il est appelé dans Éphésiens 5 le fruit de la lumière, c'est-à-dire que la lumière de Dieu dans votre cœur produit certains types d'attitudes. Dans Philippiens 1:11, il est appelé le fruit de la justice. Dans Colossiens chapitre 1 et verset 10, il est dit portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Le fruit est à la fois travail et attitude, ce que vous ressentez et pensez, et ce que vous faites. Ce qu'on dit ici alors c'est, et retenez bien ceci, le premier critère de test d'un faux prophète, et sa conduite, son caractère, à mesure qu'il se manifeste. Et je vous dis cela simplement parce que vous ne pouvez pas obtenir la vraie justice à partir d'un arbre pourri. Vérifiez son caractère, vérifiez son style de vie, car tout ce qu'il a dans le cœur va ressortir. C'est pourquoi ce sont des saletés, des croûtes, ce sont des écueils dans vos agapes. Pierre dit, ils ont les yeux pleins d'adultère, ils ne font que convoiter tout le temps. Ce sont des enfants avides, avides d'argent. Tout leur style de vie est misérable. Ils sont lascifs. Ce sont des bêtes obscènes, sensuelles et brutales. Maintenant, notez tout de même ceci. Ils ne ressemblent pas toujours à cela à l'extérieur. Eh bien, ils peuvent dissimuler leur apparence. Ils peuvent se couvrir de robes ecclésiastiques et d'ornements. Ils peuvent adopter un supposé style de vie chrétien. Ils peuvent le cacher en intégrant une organisation chrétienne. Ils peuvent le couvrir en traînant autour d'autres dirigeants chrétiens. Ils peuvent le couvrir en parlant de la Bible, de Jésus-Christ et du salut. Et ils peuvent le couvrir de tant de façons différentes. Ils peuvent aussi le couvrir en s'assurant que personne ne découvre la vérité sur leur vraie vie morale. Un homme peut sembler prêcher l'Évangile. Il peut même sembler le vivre. Mais en vérité, il ne le fait pas du tout. Et peut-être que parfois vous ne pouvez pas le remarquer de l'extérieur. Vous ne pouvez pas toujours le dire à partir de ses actions, parce que ses actions paraissent bonnes, comme celles des pharisiens. Elles avaient l'air bonnes, n'est-ce pas? Je veux dire, ils n'ont pas tué, et ils n'ont pas commis d'adultère, vous voyez. Ils n'ont pas fait tout ce genre de choses, et ils avaient l'air vraiment de gens bien. Ils ont jeûné, ils ont prié, ils ont donné, et tout avait l'air bien chez eux. Mais si vous regardez leurs actions, et faites toujours ça en premier, vous constaterez peut-être que tout chez ces faux prophètes n'est pas bon. Je veux dire que si vous examinez certains des faux prophètes, vous découvrirez qu'il y a beaucoup de squelettes dans leur placard moral. On trouve beaucoup de misère en eux. On voit beaucoup de cupidité malsaine et beaucoup de problèmes d'argent. Il y a trace de femmes quelque part, etc., etc. Mais peut-être que rien de cela n'est visible. Alors vers quoi se tourne-t-on ensuite? On passe à l'attitude et on commence à observer comment ils pensent et quelle est leur attitude. Parce que, très souvent, ils peuvent dissimuler l'aspect extérieur de leur intérieur, vil et mauvais. Leur mode de vie ne peut pas être toujours manifeste. Laissez-moi vous donner une illustration. Je pense que c'est une bonne illustration. Dans 2 Pierre. Arrêtons-nous-y pendant une minute. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 4, je veux que vous remarquiez le contraste ici. Dans 2 Pierre 1, 4, il est question de vrais croyants. C'est puissant comme passage. C'est à propos des vrais croyants que, je veux juste que vous notiez bien le milieu du verset, que vous deveniez participants de la nature divine. Les vrais chrétiens ont reçu la nature même de Dieu. Nous participons à la nature divine. Retenez bien ceci, en fuyant. Notez bien ça. La corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Un vrai croyant échappe à la corruption. C'est un concept profond. La corruption, c'est la pourriture interne. Nous avons échappé à cela. Nous avons échappé à la corruption. Allez maintenant dans 2 Pierre 2, verset 19. Et voilà les faux prophètes. Maintenant, écoutez bien ceci. ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de quoi ? La corruption. Ils n'ont pas échappé à la corruption. Mais retenez bien ceci, après s'être retirés. De quoi ? Verset 20. Des souillures du monde. Vous savez ce que fait Pierre ici ? Il fait la différence entre la corruption interne et la pollution externe. Il dit qu'ils n'ont jamais été modifiés en eux-mêmes, mais qu'ils ont simplement fait un ravalement de façade de leur aspect extérieur. Vous voyez, ils se sont débarrassés de la pollution externe, mais ils n'ont jamais rien fait contre leur corruption interne. Vous comprenez ? C'est ce que Pierre nous dit. Il y a beaucoup de faux prophètes qui cachent bien leur pollution extérieure. Ils éliminent cette pollution. Ils ont l'air vraiment de gens bien, temporairement. Or, comment allez-vous les différencier ? Je veux dire, vous avez observé leurs actions, et ils ont l'air de gens si bien. Puis vous ne trouvez pas de squelette dans leur placard au niveau moral. Vous n'arrivez pas à trouver de problème. Extérieurement, tout a l'air parfait. Ensuite, vous commencez à aller au-delà de ça, derrière cette couverture, là où la pollution a été lavée, et à chercher la corruption. Et où cela vous mène ? Vous regardez la motivation, vous regardez l'intérieur de cette personne, son attitude. Maintenant, écoutez-moi bien. Vous devez les évaluer, les amis. Vous devez les évaluer. Non seulement pour vous, mais pour le bien des gens qui vous sont chers. Ceux qui sont piégés par leur système pervers, vous devez les évaluer. À moins que leur motif ne soit un véritable désir de glorifier Dieu, à moins que leur mobile ne soit la sainteté, à moins que leur motif ne soit de vaincre le caractère offensant du péché, à moins que leur motif ne soit de magnifier le Christ, à moins que leur motif ne soit l'humilité et l'altruisme. Alors toute la bonté qu'ils montrent n'est qu'une serpillière sale, les linges menstruels dont parle Ésaïe. Chez ceux qui semblent immaculés de l'extérieur, le test doit se faire sur leur intérieur. Voyez-vous, Jésus est allé voir les pharisiens et leur a dit « Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, pas vrai ? Et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort ? Vous comprenez maintenant, voilà tout ce qu'implique le sermon sur la montagne. Franchement, voilà ce que dit Jésus durant tout le sermon. Les pharisiens avaient réussi à éliminer leur pollution visible de l'extérieur. » Mais il devait être traité de l'intérieur. Vous savez ce qu'il faut rechercher chez un faux prophète ? C'est très simple. Rechercher une attitude de béatitude chez eux. Attitude qui est la preuve d'une transformation interne. Est-ce qu'ils se présentent pauvres en esprit, profondément humbles, pleurant sur leurs péchés, affamés et assoiffés de justice, aspirant à la miséricorde, artisans de paix, disposés à être persécutés, insultés, méprisés, et haï à cause du nom du Christ. Pas du tout. Les faux prophètes sont guidés par la fierté, le pouvoir, le prestige, la personnalité, l'autopromotion. Ils veulent être célèbres, aimés. Ils ne sont pas intéressés par quiconque les persécuterait. Ils veulent être populaires. Ils se jettent dans ce faux ministère, 2 Pierre 2:3, par cupidité, pour l'argent. Et pour cela, dit Pierre, ils font de vous des marchandises. Ce sont des Christemporos, des vendeurs de Christ. Ils sont ceux que 2 Corinthiens 2:17 appelle les mercenaires de la parole de Dieu, ceux qui ne sont pas sincères, mais qui vendent Jésus comme du verre bon marché au lieu de diamants. Ils le font pour le prestige. Ils sont pompeux, dit Pierre. Ils sont présomptueux, combatifs, ne craignent pas de dire du mal des anges. Ils prononcent de grands discours enflammés de vanité. Ils se présentent comme égoïstes, égocentriques, axés sur la mode, centrés sur l'autopromotion. Observez-les, je ne sais pas comment vous le dire autrement, si vous ne comprenez pas toujours maintenant. Ils sont fiers, ils sont jaloux des autres, ils sont impurs, égoïstes, complaisants, et vous pouvez chercher aussi longtemps que vous voudrez. Vous ne trouverez jamais en eux la moindre trace d'humilité. Ils ne regrettent pas leurs péchés, ils ne sont pas modestes devant Dieu. Ils ne cherchent pas la discrétion. Ils ne se présentent pas, comme le bien-aimé apôtre Paul, dans la faiblesse, la peur ou avec grande crainte. Martin Lloyd-Jones a une bonne citation à ce sujet. Un chrétien peut généralement être connu par son apparence même. L'homme qui croit vraiment la sainteté de Dieu et qui connaît son propre péché et la noirceur de son propre cœur. L'homme qui croit au jugement de Dieu et à la possibilité de l'enfer et du tourment. L'homme qui croit vraiment qu'il est lui-même si vil et impuissant, que rien d'autre que la venue du Fils de Dieu du ciel sur la terre, et son départ vers la honte amère, l'agonie et la cruauté de la croix, ne pourrait jamais le sauver et le réconcilier avec Dieu. Cet homme va montrer tout cela dans sa personnalité. C'est un homme qui doit donner une impression de douceur. Il est tenu d'être humble. Et notre Seigneur nous rappelle ici que si un homme n'est pas humble, nous devons nous méfier de lui. Il peut revêtir une sorte de tenue de mouton, mais ce n'est pas la vraie humilité, ce n'est pas la vraie douceur. Si la doctrine d'un homme est fausse, elle se manifestera généralement à ce stade. Il sera affable et agréable. Il fera appel à sa nature humaine et aux choses qui sont physiques et charnelles. Mais il ne donnera jamais l'impression d'être un homme qui se voit comme un pécheur lié à l'enfer et sauvé seulement par la grâce de Dieu. Fin de citation. Vous savez ce que j'ai remarqué? Ces faux prophètes attirent les incroyants tout autant que les croyants. Ils font appel à la chair et à la nature de l'homme. Ils ont l'air de gens bien, mais vous avez l'air de quelqu'un de bien aussi. Et si vous ne savez pas les distinguer de l'extérieur, cherchez leur humilité. Parce que Jésus a dit dans Jean 7:18, « Vous pouvez savoir que je suis le Fils de Dieu, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Si Jésus a établi cela comme la norme pour sa propre identité, ce test devrait certainement être appliqué à n'importe quel homme. Jean Calvin a déclaré, « Rien n'est plus difficile à contrefaire que la vertu. Vous trouverez la vérité si vous observez bien. » Deuxièmement, le deuxième critère qui qualifie le fruit du faux prophète est leur credo. Non pas seulement leur caractère, mais leur croyance. Et cela fait référence à la réalité de leur enseignement. Leur enseignement tournera mal. Observez-le attentivement. Non seulement leur enseignement sera distordu à certains moments, mais ils enseigneront mal. Et ensuite, retenez bien celui-ci, voici le plus subtil. Ils laisseront de côté certaines choses. Ils enseigneront des choses erronées pour certaines d'entre elles, et certains d'entre eux laisseront de côté d'autres éléments. Ce qu'ils disent sonnera bien, car c'est ce qu'ils ne disent pas qui est vraiment le problème. Dans Matthieu, chapitre 12 et verset 33, il est dit, « Ou dites que l'arbre est bon, et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais, et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. » C'est le même petit symbole. Puis verset 34, « Race de vipère, vous, serpent, dit-il, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchant comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Écoutez donc ce que ces faux prophètes disent vraiment. Écoutez ce qu'ils disent vraiment. Parlent-ils d'après la Bible? Redisent-ils tout le conseil de Dieu, du début à la fin, sans rien omettre? Exerçant leur devoir de sorte que, comme Paul l'a dit, « Je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. » Acte 20:26. Ésaïe 8:20 nous dit, et voilà le test, à la loi et au témoignage. Voilà ce qu'est le livre. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Montrez-moi un homme qui n'enseigne pas à partir de la parole de Dieu, ou qui enseigne l'erreur à partir de la parole de Dieu, et je vous montrerai un faux prophète. Parfois, ils parlent de la Bible, parfois ils n'en parlent tout simplement pas. Ils ne peuvent pas exposer leur vie à la lumière de la parole. Si un homme n'enseigne pas ce que les Écritures enseignent, alors c'est un faux prophète. Et vous n'écoutez pas seulement ce qu'ils disent, ou le comparez avec les Écritures, mais vous écoutez aussi ce qu'ils ne disent pas. Or, quelle saine doctrine notre Seigneur a-t-il particulièrement à l'esprit? Revenons à Matthieu 7. Et je vais vous donner l'idée maîtresse de tout cela, avant de conclure. Quel est l'enjeu ici? Écoutez-moi bien. Vous pourrez toujours distinguer un faux prophète, parce qu'il a une vision tordue de Christ, compris? Une vision tordue, à la fois de sa personne et de quoi? De son œuvre. Et quelle est son œuvre? Le salut. Ainsi, lorsque vous avez affaire à un faux prophète, vous vous devez d'examiner leur vision doctrinale du salut. C'est à ce moment-là que tout leur discours devient confus. Le Seigneur vient de nous dire ceci. Être sauvé n'est pas facile, pas vrai. Vous devez passer par quoi? Par une porte étroite, par un chemin étroit, que peu trouvent. Et vous devez quoi? Vous efforcer, travailler très dur pour y entrer. Laissez-moi vous dire quelque chose sur la doctrine du salut d'un faux prophète. Il n'enseignera pas ce genre de salut. Il proposera une énorme, une grande, une large et profonde doctrine qui inclut tout le monde, et qui dit « Tout ce que vous avez à faire est de croire en Jésus. » Et le faux prophète parlera du fait que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, et il pourra vous réciter quelque chose qui ressemble à l'Évangile. Mais quand il s'agira de dire qui sera reçu au paradis, il dira tout le monde. Arthur Pink a dit « De faux prophètes se trouvent dans les cercles des plus orthodoxes, et ils prétendent avoir un amour fervent pour les âmes, mais ils trompent de manière fatale des multitudes quand ils parlent de la voie du salut. La chair, la plateforme et le discours des bonimenteurs, et je suis sûr qu'ils auraient ajouté la radio et la télévision s'ils avaient vécu de nos jours, ont tellement abaissé le niveau de la sainteté divine et tellement frelaté l'Évangile afin de le rendre acceptable pour l'esprit charnel. » Fin de citation. Il propose une doctrine bon marché du salut. Signez une carte, marchez dans une allée, tenez-vous la main, aimez Jésus et vous êtes sauvés. Peu importe ce qui fait votre vie, tout le monde est accepté. Je dirais donc que le point numéro un de leur doctrine est qu'il n'y a pas de porte étroite. Il n'y a pas de porte étroite. Leur credo n'a pas de porte étroite. Et le mensonge, bien-aimé, est dans ce qu'ils ne disent pas, vous voyez. Le faux prophète ne dit jamais rien d'offensant. Il veut plaire à tout le monde. Leur message est confortable, réconfortant et joyeux. Et il est loué par les libéraux et les évangéliques. Il n'y a aucune offense dans la croix. Oh, ils peuvent présenter Christ comme le chemin, la vérité et la vie, mais ce n'est pas une porte étroite. Leur message est un message de salut facile. Descendez l'allée, faites-vous baptiser ou peu importe. Leur message est le message de la santé, du bonheur, de la pensée positive, du salut facile. Ce sont des conciliateurs. Jérémie l'a pointé du doigt au chapitre 6 et au chapitre 8. Écoutez ce qu'il dit. Il pense. J'aime ce mot. À la légère, la plaie de la fille de mon peuple. Les voilà, les faux prophètes. Et la fille de mon peuple porte une blessure profonde. Ils ont mis un petit pansement dessus et ont dit, nous avons tout arrangé. Ne regardez même pas cette blessure. Elle n'est même pas là. Nous l'avons juste couverte. Et Jérémie ajoute, paix, paix, disent-ils. Il n'y a point de quoi, de paix. En d'autres termes, ils mentent. Ils disent que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Ils n'offrent pas de repentir, pas d'avertissement, pas de jugement, pas de faiblesse, pas de cœur contrit, pas de chagrin sincère pour le péché. C'est un message réconfortant, positif et affectueux. Et Jérémie dit, « Mon peuple prend plaisir à cela. Ils ne veulent pas connaître la vérité de toute façon. Pourquoi pensez-vous que les gens de notre société se détruisent tout le temps à coups de drogue et d'alcool? Ils ne veulent pas connaître la vérité sur quoi que ce soit. » Pourquoi pensez-vous qu'ils s'assoient le visage face à leur ligne? Parce qu'ils peuvent fantasmer. Ils ne veulent pas de la réalité. Pourquoi vont-ils au cinéma? Parce qu'ils ne veulent pas de la réalité. Ils aiment l'illusion. Les faux prophètes ont alors à leur disposition un très très grand champ pour leur moisson. Mon peuple prend plaisir à cela. Les gens s'amassent. Ils le font vraiment derrière les heureux guérisseurs du Saint-Esprit, les penseurs positifs, les prédicateurs de la grâce bon marché, parmi un beau, grand groupe confortable, en scandant « Paix, paix !» Et il n'y a pas de paix. Ils ne sont pas sur la bonne voie. Je crois que Martin Lloyd-Jones avait tout à fait raison lorsqu'il a dit « Inévitablement, écoutez bien ceci, les faux prophètes se caractérisent par une quasi-absence de doctrine. La doctrine est tout simplement inexistante. On ne les entend jamais en parler. » Ils ne veulent pas parler de doctrine. Ils ne veulent pas parler de théologie. Ils veulent juste tous nous assembler. Ils ne précisent jamais rien. Tout reste très vague, très brumeux et très éthéré. Ils ne donnent aucun message de sainteté, aucun message d'obéissance, de droiture, de justice, de jugement. Ils ne parlent juste que de beaucoup de sentiments heureux, de santé, de bonheur, de pensées positives, de croyances faciles d'être sauvés, de sauter dans le train en marche. Et cela séduit les hommes jusqu'en enfer. Ils ne font jamais appel à la repentance. Ils sont très loin des puritains, loin de John Wesley, de George Whitefield et des autres comme eux. Savez-vous que quand John Bunyan a été sauvé, il a écrit Pilgrim's Progress, The Holy War, Le chemin du pèlerin, La guerre sainte et d'autres ouvrages. Ce grand homme de Dieu a écrit une sorte de biographie, appelé Grace, Abounding, l'abondance de la grâce. Savez-vous ce qu'il veut dire par là? Il veut dire « J'ai enduré au moment de mon salut une agonie de repentir qui a duré 18 mois. Il a souffert de son péché durant 18 mois. » Martin Lloyd-Jones dit « La repentance signifie que vous réalisez que vous êtes coupable, un vil pécheur en présence de Dieu, que vous méritez la colère et le châtiment de Dieu, que vous êtes lié par l'enfer. Cela signifie que vous commencez à réaliser que cette chose appelée péché est en vous, et que vous aspirez à vous en débarrasser, et vous lui tournez le dos sous toutes ses formes. Vous renoncez au monde, quel qu'en soit le prix. Le monde est dans son esprit et sa vision, ainsi que dans sa pratique. Et vous vous reniez vous-même, et prenez la croix et suivez le Christ. Votre être le plus proche et le plus cher dans le monde entier peut vous appeler un imbécile, ou vous dire que vous souffrez de frénésie religieuse. Vous devrez peut-être souffrir financièrement, mais cela ne fait aucune différence. C'est ça la repentance. » Fin de citation. Les faux prophètes ne prêchent pas de cette façon. Ils restent vagues sur tout. Il vaut mieux écouter les vrais prophètes, et non les faux. Arthur Pink a dit « Il est certain, cher lecteur, que tout prédicateur qui rejette la loi de Dieu, qui nie que le repentir soit une condition du salut, qui assure aux étourdis et aux impies qu'ils sont aimés de Dieu, qui déclare que la foi salvatrice n'est rien de plus qu'un acte de volonté, que chaque personne a le pouvoir d'accomplir, est un faux prophète et devrait être évité comme une peste mortelle. Comment les reconnaissez-vous? Par leurs fruits. Quels sont leurs fruits? Leur caractère, leur credo. Et troisièmement, je fais juste un commentaire là-dessus, les convertis. Vous pouvez les repérer en observant qui les suit. Vous voulez en savoir plus sur un leader? Regardez ses disciples, regardez leur vie. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, a déclaré Pierre. Leur fruit, c'est aussi leur converti. C'est vrai. Regardez qui les suit. Voyez qui avale leur bobard, qui accepte leur influence. Qui a cru leur ruse astucieuse? Paul appelle ses convertis dans Romains 1 le fruit, et les convertis sont des fruits. Voyez-vous l'humilité dans leur vie? Voyez-vous un effort de sainteté? Voyez-vous une faim et une soif de justice? Ou sont-ils juste le gang du train en marche? Juste le gang du train en marche. Jésus est-il une sorte de périple qu'ils suivent? Voyez-vous en eux la vraie vertu, la vraie piété? Reste un quatrième et dernier critère. Vous pouvez les démasquer par le quatrième type de fruit, leur fin. Vous pouvez également voir comment ils vont finir. Verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. En fin de compte, vous pouvez distinguer un faux prophète par sa condamnation, sa consommation. Et je veux terminer en vous donnant une vérité ici que je veux que vous compreniez. Écoutez bien. Dieu a ordonné que des faux prophètes existent. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle il a permis cela? Je l'ai fait jusqu'à ce que je comprenne un des principes de l'Écriture. Écoutez simplement ceci. Notez-le même. 1 Corinthiens 11-19. Vous pouvez l'étudier vous-même. Notez-le simplement pour le moment. 1 Corinthiens 11-19. Cela vous aidera vraiment à comprendre ce que je veux dire. Voici ce qu'il dit. Écoutez-moi bien maintenant. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous. Car il faut qu'il y ait même des hérésies parmi vous. Vous entendez ça? Il doit y avoir des hérésies parmi vous. Vous me direz, eh bien, que veux-tu dire par là? Pourquoi le Seigneur ne pouvait-il pas les laisser de côté? Pourquoi devons-nous subir ce problème de faux prophètes? Le Seigneur n'avait pas besoin de les laisser proliférer, mais... il faut qu'il y ait même des hérésies. Pourquoi? Afin que ceux qui sont dignes d'approbation soient manifestés parmi vous. Vous voyez, Dieu dit que si vous voyez une hérésie, alors cette hérésie devient un aimant qui éloigne les faux disciples et laisse les vrais disciples se manifester. C'est comme le vent qui chasse les balles de paille au loin. Vous voyez, en d'autres termes, il nous dit qu'il y aura des convertis qui s'identifieront à eux. L'erreur sépare l'ivraie et le blé. Au moyen de vrais et faux prophètes, Dieu révèle ceux qui sont authentiques. Oh, je sais que certains des fruits authentiques sont collés là, sur des épines, et qu'une partie de l'ivraie est semée parmi le blé. Mais d'une manière générale, les faux prophètes sont ordonnés par Dieu pour devenir des attracteurs ou des aimants qui attirent les impies à eux, et ce faisant, les damnent. Cela fait partie du jugement de Dieu. Dans 2 Thessaloniciens 2:11, écoutez bien, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Dieu permet en fait à l'illusion de se produire. Pourquoi? Afin que tous ceux qui n'ont pas cru soient condamnés. Dieu veut cette illusion, car elle devient le point d'attachement pour ceux qui rejettent Jésus-Christ, et elle les sépare évidemment du bon grain. Les faux prophètes sont donc ordonnés pour permettre le jugement. Soyez donc avertis, bien-aimés, et soyez attentifs. Beaucoup de ces faux prophètes vont ressembler aux vrais. Ce seront des gens très agréables, vraiment sincères, parlant de Jésus, parlant de la Bible, parlant du salut, à l'air complètement inoffensif, soucieux de plaire à tout le monde, accommodant leur point de vue à ceux des autres, rarement critiques envers les autres, loués par beaucoup, condamnés par quelques-uns. De grandes foules se rassembleront autour d'eux et les écouteront, pensant qu'ils sont géniaux, et ils pousseront ces grandes foules sur le large chemin qui mène à la destruction. Si vous les écoutez attentivement, vous constaterez qu'ils accordent peu de temps à l'étroitesse. Ils sont simplement sûrs que l'Esprit de Dieu est plus grand que celui de beaucoup de gens qui parlent de la voie étroite. Ils parlent de l'amour de Dieu et non de la colère de Dieu. Ils parlent de personnes défavorisées et pas de personnes dépravées. Ils parlent de Dieu, le Père de tous, plein d'amour et de compréhension. Et ils ne disent rien du Dieu saint, dont seuls les enfants sont ceux qui possèdent la foi en Christ. Leur message est un message de lacune, qui laisse de côté la vérité qui sauve. Alors, gardez-vous des faux prophètes. Je termine dans les Actes par l'avertissement de Paul aux anciens d'Éphèse. Il dit ceci, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau. Je sais cela. Si c'était le dernier dimanche que je devais prêcher à Grace Church, je pense que je prêcherai ce message. Je sais qu'après mon départ, de terribles loups se glisseront parmi vous, de faux prophètes, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que, durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. On a ces 2 mots, observer et avertir. Observer et avertir. Vous observez et vous êtes avertis, dit Paul. Ils seront là, ils seront au milieu de vous. Et maintenant, voici la réponse donnée dans la Bible. Retenez bien ceci. Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Voilà notre seule protection. Prions. Père, encore ce matin, merci pour ta bonne parole envers nous, pour la patience de ces gens, d'entendre et d'écouter avec de vrais cœurs attentifs. Confirme en nous ce qui vient de toi. Aide-nous à discerner le vrai du faux, afin que nous ne soyons pas la proie de ceux qui damneraient l'âme des hommes. Et pourtant, Seigneur, nous savons que tu as une souveraineté sur tout cela. Nous ne comprenons pas comment cela se produit, mais nous savons que tu l'as ordonné pour créer un tel jugement, pour séparer 2 livrées, afin que le blé puisse se manifester. Montre-nous le vrai du faux, afin que nous puissions indiquer aux hommes le chemin étroit. Pour la gloire du Christ, nous prions. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'étude de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.